Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
On va manger des pizzas en ASMR cette semaine.
D'ATH.
Salut à tous.
Ainsi que celui qu'on appelle amicalement Michael Pachter, depuis qu'il a réussi à prédire avec brio la stratégie de Nintendo concernant les périphériques, c'est Mordren.
Je sais pas si je dois vraiment bien le prendre en fait.
Achievement unlocked. Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de Nesmaker, on enchaînera ensuite sur Ghost Recon Wildlands, on parlera également de Anthem, on évoquera le Xbox Game Pass, et enfin, on terminera sur la visibilité des jeux sur Steam en 2018. Il y a eu une petite sortie d'un éditeur indépendant cette semaine, et on reviendra là-dessus. Sans oublier bien entendu notre jeu du moment, c'est un jeu en accès anticipé que vous avez dû remarquer parce qu'il est sorti un peu de nulle part dans les charts de Steam, c'est Slay the Spire. Allez, c'est parti. On va commencer, Pixel, avec Nesmaker. Qu'est-ce que c'est déjà ?
Alors, Nesmaker, c'est un projet Kickstarter, pour commencer, qui a réussi, hein, je tiens à le dire tout de suite, parce qu'ils demandaient 25 000 dollars, ils en sont à plus de 100 000 aujourd'hui, donc c'est joli succès. C'est un logiciel indépendant qui permet en fait de coder ses jeux NES 8 bits sans savoir coder quoi que ce soit. Et vous pouvez tout faire vous-même, tout seul, comme un grand. La musique, les animations, les graphismes, ça marche très très bien, d'après les vidéos de présentation. Et c'est tout, voilà.
Mais je crois que tu avais quelque chose à dire, toi, sur la campagne en elle-même.
Voilà, pour cette news, j'ai rien de plus à dire, mais par contre, pour la vidéo de présentation qui est sur la page Kickstarter, on donnera le lien, bien entendu, ça m'a fait un peu grincer des dents.
Alors pourquoi ? Parce que moi, ça m'a fait plutôt rigoler, en fait.
Bah oui, justement, parce que je me suis dit, bon, ok, c'est des geeks qui ont la trentaine, ils se disent, bon, on va faire un truc pour faire des jeux NES, donc comment on va marketer ça ? Et c'est la façon dont ils ont marketé qui m'a pas plu. Parce que depuis très longtemps, depuis plusieurs années, en fait, pour moi, le mot geek, il veut plus rien dire. C'est genre le... on va dire une espèce de marketing consumériste qui s'est approprié le mot geek et qui te vend absolument tout et n'importe quoi sous le mot geek. Et d'ailleurs, le mot geek qui me sort par les trous de nez, je n'en peux plus de le voir absolument partout. Et cette vidéo, elle, ces gens, elle te crache à la gueule sa geekitude et ces gens, bon, alors, si ça va intéresser les trentenaires, donc on va te mettre une DeLorean, on va te mettre des voyages dans le temps, on va te mettre des chemises hawaïennes et, mec, si tu veux me vendre un truc pour programmer sur NES, ne me donne pas une DeLorean, ça me sort par les trous de nez. Enfin, c'est un avis personnel que je donne, bien sûr. Mmh. Mais ça me sort par les trous de nez. Et quand je vois ça, je me suis dit, alors déjà, c'est mal filmé, c'est mal monté. Il y a des plans qui manquent et qui donnent un rythme extrêmement haché, mais c'est encore un avis
je
personnel.
Je rappelle que c'est notre ami amateur de cinéma bis qui parle.
Voilà, c'est un de cinéma bis. Voilà, c'est un avis personnel, mais j'aime pas cette vidéo. Après, qu'ils aient réussi leur Kickstarter, très bien, que les gens vont pouvoir programmer leur jeunesse, très bien. C'est pas contre le produit Nesmaker hein, que j'en veux, c'est contre la vidéo marketing en elle-même et que je trouve non, arrête de dire que je suis geek et arrête de me vendre des DeLorean quoi. Enfin de me montrer des DeLorean
oui.
Pour te vendre
un peu
un
comme
truc.
Les vidéos de Brian Fargo quand il fait des Kickstarter et qui te refait à chaque fois le même sketch du grand méchant éditeur qui vient persécuter le petit développeur au bout d'un moment t'as compris quoi.
Ce que j'aime pas c'est la solution de facilité. Ils auraient pu faire quelque chose de bien plus sympa et de mieux filmer et de mieux monter surtout.
Cela dit, ça leur a réussi.
Bah oui, ça leur a réussi.
Alors après, c'est sûr que ce qui est cool dans le projet, c'est que ça permet d'exporter directement ton projet dans une cartouche NES. Donc ça marchera vraiment avec la NES originale. C'est pas genre, tu vois, faire du semi-jeunesse. C'est des jeux qui tourneront sur des NES. Bon, par contre, ce qui me gêne, c'est vraiment le côté, tu sais, nostalgie permanente du truc, quoi. Allez, vas-y, on va faire un jeunesse. Qu'est-ce que ça apporte aux médias jeux vidéo aujourd'hui, quoi?
Je te rejoins un petit peu sur ce que tu dis, Tyran. Pourquoi s'embêter à faire des trucs typiquement de la NES, alors qu'aujourd'hui, on peut faire des jeux avec des graphismes 2D totalement hallucinants. J'aurais préféré qu'ils nous vendent un truc un peu... bon, peut-être pas aussi chouette que le moteur d'Ubisoft, là, celui avec lequel ils ont fait Rayman Origin et Rayman Legend, qui devait être distribué à tous les développeurs, mais après, lui, il a dit fuck. Par contre, le truc que je peux pas leur enlever, c'est quand même le côté... didactique du truc, c'est-à-dire qu'ils vont t'apprendre à comment faire. Au moins, t'as le côté qui te permet de mettre un pied dans l'étrier et de voir comment tu fais pour coder un jeu, d'avoir, on va dire, les bases. Mais c'est vrai qu'après se limiter à la NES, alors qu'on pourrait faire un truc un peu plus généraliste, et surtout qui pourrait tourner sur des PC. Si tu veux faire du pixel art, tu vois, comme des jeux comme Shovel Knight et tout ça, ou Hotline Miami, qui sont sortis aujourd'hui, qui ont des graphismes NES, mais qui ont pas, entre guillemets, les contraintes du NES, parce qu'ils peuvent mettre plus de sons, plus de choses comme ça. Moi, je trouve ça mieux, parce que la NES, c'est vraiment quelque chose, une machine. Aujourd'hui, elle est quand même dégueulasse, quoi. Tu peux pas mettre plus de 3 sprites à l'écran. Enfin, c'est quand même des contraintes techniques qui sont quand même assez lourdes, quoi.
Et dernière chose qui me gêne aussi, c'est que même dans le cadre, tu sais, un peu rétro gaming, leur système se veut tellement didactique, si tu veux, que il ne va permettre que de développer des choses déjà vues. Je m'explique. Pourquoi ils font un Kickstarter là actuellement, alors que techniquement leur programme est déjà terminé? C'est parce que la manière dont ils ont conçu leur programme, ça fonctionne un peu comme RPG Maker. C'est-à-dire que RPG Maker, techniquement, c'est un moteur qui permet de faire des RPG. Et si tu veux faire autre chose avec, il faut un peu bidouiller, quoi. Mmh. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, en gros, le template de base de leur moteur, c'est pour faire des jeux d'aventure à la Zelda 1. Et si tu veux faire autre chose, il faut bidouiller. Et du coup, ce qu'ils veulent faire avec ce Kickstarter, c'est développer d'autres templates. Mais le problème, du coup, c'est que je trouve que cette manière de voir les choses sur un moteur, ça incite les gens à se restreindre à un certain cadre. Alors oui, moi, je vais faire un clone de Megaman. Moi, je vais faire un clone de Zelda. Moi, je vais faire un clone de Final Fantasy. Moi, je vais faire un clone de machin, de bidule. Et du coup, en termes de créativité, il y a même pas, tu sais, avoir le truc de se dire, ok, j'ai développé un jeu NES et il est original par rapport à ce qu'il a pu se faire à l'époque, tu vois.
Ouais, mais après, c'est comme on va dire, moi, je le vois plus comme un Super Mario Maker. Donc, Super Mario Maker, c'est pour faire un jeu Super Mario avec les plateformes et tout ça. C'est sauf ça. Que là, qui est généralisé, en fait, à tout ce qui est sorti sur NES. Donc, si tu veux faire ton Double Dragon like, si tu veux faire ton Mario, ton Zelda, enfin, comme t'as dit. Et c'est vrai que par rapport à ça, tu pourras pas avoir peut-être un concept novateur sans vraiment bidouiller la chose. Mais là, ça va pas s'adresser au grand public. Ça va s'adresser vraiment à ceux qui ont déjà un peu les mains dans le cambouis, parce que il faut quand même s'y connaître un peu en programmation, je pense, pour pouvoir trifouiller les codes d'une bécane, quoi.
Et vous verrez, je vous mettrai un lien vers une vidéo tuto où il parle de comment ça fonctionne. Franchement, c'est super didactique et c'est par contre très intéressant de voir comment fonctionne la NES. Parce que dans la vidéo tuto, en fait, il te montre ce qui se passe en surface, c'est-à-dire ce que te permet de faire leur moteur. Et derrière, ils te disent, et si tu devais coder ça à la main, regarde comment ça marcherait. Alors par contre, qu'on soit clair, hein, moi, ça, c'est une critique très personnelle. D'une manière générale, je suis pas franchement un fan de rétro. Je pense qu'il y a suffisamment de jeux modernes comme ça qui tapent dans cette nostalgie-là, on va dire. Mais je comprends tout à fait que quelqu'un qui soit un peu versé dans le rétro, ça l'attire, ce projet-là. Voilà. On va enchaîner. Pixel, tu vas reprendre la parole et ouais. On va parler du jeu service made in Ubisoft.
Ouais, alors Ubisoft, cette année, on va dire qu'il s'était un peu rattrapé dans le cœur des fans. Avec le dernier Assassin's Creed qui surfe sur des pyramides. Mais il y a un problème, c'est que Ubisoft, ça restera toujours Ubisoft, ils peuvent le cacher, mais ça revient à la vitesse d'un cheval au galop. Ils ont envie de tendre le bâton pour se faire battre auprès des fans, enfin de leurs fans en tout cas, parce qu'ils ont choisi, pour leur jeu Ghost Recon Wildlands, de sortir à période régulière en fait des mises à jour. Et dans ces mises à jour, en fait, on aura ce que Ubisoft appelle gentiment des caisses de combat. Alors, traduction, caisse de combat égale lootbox, hein, il faut pas se déconner non plus. Je vais reprendre une phrase du communiqué officiel pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, deux points, ouvrez les guillemets. Un moyen supplémentaire et accessible d'enrichir votre expérience de personnalisation cosmétique en mode campagne et Ghost War. Fermez les guillemets. Voilà. Donc, c'est que du cosmétique. Mais c'est des lootbox quand même. Et c'est payant. Avec du vrai argent réel. Et on va en avoir au moins jusqu'au mois d'avril 2018. Si ça marche, il y en aura beaucoup plus. Forcément. Vous aurez à peu près tout, hein. Vous aurez des skins d'armes, des éléments de personnalisation, des looks exclusifs pour vos soldats, enfin du grand Ubisoft, mais ça va aussi avoir un impact sur les statistiques ou les chances en jeu. C'est là que ça devient un peu compliqué en fait, c'est là que
Ubisoft tend un peu le bâton pour se faire battre, c'est que c'est que cosmétique, mais ça change quand même les statistiques de jeu. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Et ça coûte le prix de 400 store crédits sur le Uplay. Donc, je ne sais pas à quoi correspond 400 store crédits, mais je pense que c'est pas gratuit, en fait.
Alors moi, j'irais même plus loin que toi, Pixel, c'est que pour moi, le problème, il se situe même à partir du moment où tu proposes une lootbox. Qu'elle soit cosmétique, moi, je m'en fous, en fait. À une époque, j'aurais tenu ce discours. J'aurais dit, d'ailleurs, je l'ai sûrement dit à propos de Dota, oui, c'est cosmétique, ça va, ça dérange pas. Je l'aurais sûrement dit à l'époque de Dota, je suis quasi persuadé que je l'ai dit sur Dota. Mais en fait, j'ai changé d'avis depuis, pourquoi ? Parce que il y a des gens sur qui même le cosmétique, ça a un impact, et qui peuvent pas s'empêcher de filer plus d'argent que de raisonnable. C'est un problème de base, que ce soit du cosmétique ou autre chose, d'exploiter la faiblesse des gens. Moi, c'est vraiment ça qui me pose problème, et je m'en fous que ça n'impacte, même ça n'impacterait absolument pas le gameplay zéro, tu vois. Ça me pose un problème de base, parce que ça joue sur la faiblesse des gens. Point. Pour moi, il n'y a même pas de négociation à avoir, c'est de la merde. Deuxième point, pour moi, cette histoire, ainsi que plein d'autres d'ailleurs, elle pose un problème vis-à-vis de ce qui se passe actuellement sur les jeux à service, ainsi que les tests. C'est-à-dire que là, on a un jeu qui va ajouter des nouvelles choses, qui va en enlever, etc. Et ça, c'est pas marqué dans les tests. Et c'est un problème parce que les tests, on le sait, à l'heure actuelle, ils ont vocation à être des guides d'achat. Or, un guide d'achat, s'il n'est pas à jour, c'est un problème. Et ça pose aussi une autre question. Est-ce que les lootbox, par exemple, ça peut être un motif pour baisser une note ? C'est déjà arrivé que dans les moins d'un test, par exemple, je vois marquer le prix. Alors, est-ce qu'une lootbox, ça ferait aussi partie des moins, étant donné que un test, en tout cas chez les gros sites, a une visée à informer les consommateurs, et que les consommateurs, actuellement, en tout cas, visiblement, ils sont pas fans des lootbox. Même si je sais que les gamers ont une plus grande tolérance vis-à-vis des lootbox comme cosmétiques, parce que la plupart d'entre eux estiment que comme c'est du cosmétique, bah t'es pas obligé de l'acheter. Voilà.
Bah déjà pour revenir en fait sur la pertinence des tests, ça pose un problème en fait depuis l'époque des tout premiers MMO, parce que les MMO c'est des jeux qui sont toujours mis à jour et on a toujours eu ce débat là, parce que à quel moment en fait on juge que la note d'un MMO, par exemple prenons World of Warcraft, il n'a plus rien à voir avec le jeu Vanilla de 2005. Et même les mois qui ont suivi, il y a eu quelques ajustements et des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, World of Warcraft est quand même assez différent de ce qui était à la base. Donc ça, c'est vraiment un problème que le jeu vidéo a depuis vraiment que les jeux sont connectés en ligne. Et je pense pas qu'on a une recette magique, mis à part de vraiment d'avoir une entreprise avec 400 employés qui peuvent faire des tests vraiment tout le temps pour mettre tous les jeux à jour. Sinon, ça sera quasiment impossible et ça sera aux joueurs, en fait, de faire ses propres démarches, d'aller sur les forums des jeux, de consulter, voir ce qui se passe. Enfin, de prendre un site comme guide d'achat, déjà, je trouve que c'est un peu malsain parce que il y a pas mal de choses qui évoluent dans le jeu vidéo et c'est, le joueur doit vraiment faire son devoir, si tu veux, d'enquêter un petit peu sur un jeu. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport, en fait, au lootbox, concernant donc Ghost Recon Wildlands, je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est que il y a quand même un système qui garantit que il y aura pas de doublons concernant les lootbox. Donc déjà, on peut dire que c'est déjà quand même pas mal, tu vois.
Oui, enfin ça reste un système qui joue sur l'addiction des gens, hein. Enfin même si t'as pas de doublons, le fait est que si tu tombes pas sur le truc que tu voulais, parce qu'en général, c'est pour ça que tu ouvres une lootbox, hein, c'est pour tomber sur l'objet que tu veux toi et que tu tombes pas dessus, le fait est que tu vas rejouer. Donc alors certes, ça sera moins pénalisant que sur, on va dire, les jeux Blizzard, par exemple, où tu vas jouer, tant que t'auras pas ton truc. Mais ça reste quand même un système qui joue sur la faiblesse des gens. Et je suis désolé, rien n'empêche de faire un système où tu achètes directement la skin que tu veux et ce qui marche sur tous les jeux qui sont honnêtes, quoi.
Attends, parce que je viens de recevoir un petit communiqué d'Ubisoft. Alors, j'ouvre la lettre. Avocat Ubisoft. Cher joueur, rien ne vous oblige à acheter. Merci de votre compréhension. Au revoir.
Oui, non, mais les addicts aux jeux d'argent, personne ne les oblige à jouer. Hein. Ça n'empêche qu'ils sont addicts.
Ouais, bah, oui.
Voilà. Encore une fois, je sais bien que les joueurs qui ne sont pas sensibles à ça ne voient pas de problème avec les lootbox comme cosmétiques parce que eux en fait, ne sont pas touchés par le problème, et parce que pour le coup, il n'y a pas, tu sais, des mécaniques de gameplay comme Star Wars Battlefront 2 où on t'incite en plus à l'achat, et où c'est quasiment si on te met pas le pistolet sur la tempe pour dire, eh oh, tu vas acheter la loot box, quoi. Mais ce n'est pas parce que c'est moins grossier chez Ubisoft que ça n'en est pas moins condamnable. C'est tout ce que je voulais dire. Marlène, excuse-moi, je crois que je voulais dire quelque chose.
Ouais, moi je voulais revenir sur la notion d'évolutivité d'un jeu, parce que c'est quelque chose qui est un vrai enjeu chez les sites spécialisés. Parce que pour le coup, il faut prendre en compte cette évolutivité du médium jeu vidéo et du médium particulier qui est le jeu à service. Et je rejoins l'espèce de volonté affichée par jeuxvideo.com de faire évoluer ses tests sur la durée, c'est-à-dire que on teste le jeu à un instant T, sur des versions test a priori ou des versions commerciales au moment du lancement, mais avec les grosses mises à jour, que ça soit de gameplay ou de technologie ou de mise en œuvre du modèle économique, il faut que la presse soit capable, et là on arrivera sur la question du « la presse en est-elle véritablement capable ?», ça c'est une autre question, de pouvoir informer le consommateur, parce que c'est triste à dire, mais tu le disais le tyran tout à l'heure, les sites de jeux vidéo sont aussi des guides d'achat finalement. Les gens attendent, enfin en partie, l'avis de certains sites, et certains même terminent leur test en disant « attendez avant d'acheter ». Et c'est là où l'évolutivité des jeux à service vient poser véritablement problème, là, une ligne éditoriale d'un site spécialisé dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que à quel moment tu établis que ton test est finalisé ? Eh ben tu ne peux plus, en fait. Du coup, il faut faire évoluer les pratiques du test de jeu vidéo, et de la même manière qu'il fallait aussi prendre en compte le fait qu'il y a une mouvance vers l'early access qui, là aussi, apporte des itérations de mise à jour, etc., etc.
ATH.
Ouais, ce que tu suggères, Morden, en fait, moi, ça me pose beaucoup de soucis à l'heure actuelle dans le jeu vidéo, parce que là, on est en train de parler des jeux à service, mais même les jeux solo aujourd'hui évoluent. Un jeu qui peut sortir buggé à une date X, à une date Z, peut très bien changer du tout au tout, parce que, voilà, c'est la possibilité de mettre les patchs. Donc déjà, en termes de logistique pour un site de jeux vidéo, ça demande des efforts énormes, ça demande un budget supplémentaire, ouais, parce que tu dois embaucher des gens. Donc par rapport à ça, je pense que, tu vois, ça va être très compliqué de le voir mis en place pour tous les jeux, et ça ramène vers une deuxième problématique qui est une question d'un traitement à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y aura des jeux qui sont mis en avant, par exemple des jeux comme PUBG, Fortnite, qui sont des jeux extrêmement joués.
Et qui sont déjà énormément mis en avant.
C'est ça. Ouais. Et à côté, t'auras les petits jeux qui, soit la période de promotion du jeu est passée, donc on n'en parle plus, ou bien c'est juste s'il se passe quelque chose de vraiment extraordinaire, on fait une petite news là-dessus. Mais mis à part ça, tu vois, il y aura des jeux qui vont être traités encore plus en avant, et les jeux qui n'ont pas de visibilité, ils vont rester dans leur petit coin. Et alors que ça se trouve que le jeu a évolué et est vachement chouette, alors qu'à la base, il était sorti dans un état assez lamentable, quoi.
Je suis super d'accord avec toi. On en revient au problème de visibilité et au modèle économique d'une certaine presse qui est basée sur le clic.
Ouais.
Et qui, du coup, va forcément privilégier des sujets qui font cliquer. Donc, des sujets qui ont déjà été traités, qui ont généré beaucoup de vues, ou qui sont « tendances » entre guillemets sur Google. Et là, effectivement, on en reviendra sur les travers de cette presse-là qui est obligée finalement de faire comme ça, puisqu'il y a quand même une main-d'œuvre qui est limitée, c'est le nombre de journalistes, et on sait très bien qu'on va pas augmenter le nombre de journalistes pour faire face à cette masse de mises à jour de la part de certains jeux, donc forcément...
Surtout quand on sait les problèmes qu'ils ont en termes de revenus.
Exactement. Et mais oui, parce que dans le même temps, en fait, les revenus publicitaires sur le web sont tous en train de fléchir. Donc forcément, il faut aller vers le plus offrant et le plus de clics possible. Donc on sait très bien que c'est pas le petit jeu indépendant qui, quand bien même, va avoir une super mise à jour dans son early access ou même après sa sortie qui était éventuellement catastrophique, c'est pas ça en fait qui va générer la volonté de faire un papier ou une mise à jour d'un test. Et je voulais aussi parler du fait que faut pas oublier que il y a une grande partie du public qui achète, qui n'est même pas au courant, en fait, de ce qui se passe dans les coulisses et dans les mises à jour de tous ces jeux-là, parce qu'il y a aussi une grande partie du public qui est acheteur, effectivement, mais qui n'a pas conscience de l'offre de presse, de toute cette curation que la presse spécialisée a à nous proposer, parce que, bon, là, on parle, effectivement, en connaisseur et en grand amateur depuis de nombreuses années, mais moi, à chaque fois que je vais dans ma belle famille, on me dit « Ah tiens, t'as vu tel jeu ?» Et à chaque fois, on me cite un jeu que je sais être problématique. C'est-à-dire que la dernière fois, on m'a parlé de Battlefront 2. On m'a parlé de Gran Turismo. À savoir que c'est une belle famille qui n'est pas très bien pourvue en Internet. Et à chaque fois, j'étais obligé de leur dire « Attention, c'est des jeux qui sont quasiment exclusivement sur Internet » ou qui ont des mécanismes problématiques. Mais ça, c'est des personnes typiquement qui vont être dans le royaume des acheteurs, mais qui ne sont pas du tout au courant et qui n'ont aucune conscience de l'évolution que peut avoir un jeu depuis sa sortie, parce que c'est des gens, en fait, qui ne s'abreuvent finalement uniquement que de la phase marketing, en fait. Et ça, c'est encore une fois très problématique, parce que on te fait prendre des vessies pour des lanternes à un instant T, du coup t'as envie d'acheter tel jeu, mais t'as aucune idée de ce qui se passe derrière, en fait. Et ça, c'est un vrai problème, c'est toute cette frange de population qui ne s'informe pas ou qui n'est pas capable de s'informer, en fait.
Je voulais ajouter une chose, parce qu'on parle de la presse depuis tout à l'heure, mais la presse, je pense que pourquoi ils vont dans... Enfin, certains vont dans cette direction aussi, parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait.
Ouais.
Parce qu'ils ont des concurrents qui s'appellent, par exemple, les influenceurs, les youtubeurs, youtubeurs de tout poil d'ailleurs, hein, que ce soit ceux qui fassent de la publicité ou qui sont un peu plus sérieux, quoi, on va dire.
Ouais.
Le youtubeur a ceci comme avantage qu'il peut faire une vidéo quand il veut. Et qu'il peut se consacrer exclusivement à un jeu si, par exemple, tu vois, il a été rendu célèbre grâce à ce jeu-là, etc. Ouais. Et du coup, les gens vont aller plutôt voir son avis à lui, d'expert, qui est tout le temps sur le jeu, plutôt que celui de la presse. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense, moi, au contraire, que l'initiative de jeuxvideo.com, alors sur le papier, elle a l'air bien, sauf que je pense que dans les faits, en fait, elle est un peu illusoire, parce que de toute façon, l'avis du testeur de JVC, je pense qu'il sera toujours moins pertinent que celui de la brutasse qui a signé le jeu, qui est tout le temps sur le jeu, et qui sait exactement à quel point ça va impacter le jeu. Alors, entendons bien, je pars du principe qu'il est sérieux.
Ouais. Ouais, mais c'est d'ailleurs un des problèmes que la presse spécialisée doit prendre à bras-le-corps, finalement. C'est toute cette frange d'ultra-niche, en fait, qui se crée grâce à YouTube, grâce à Twitch, etc. Et à l'époque, grâce au blog, d'ailleurs. C'est cette frange-là, en fait, qui va être considérée comme plus pertinente par les personnes qui les suivent et qui peuvent, du coup, mettre en doute la capacité du journaliste dont c'est le métier, à critiquer tel ou tel jeu. Et c'est là que on arrive dans des considérations qui deviennent assez problématiques d'un point de vue de presse, puisque, typiquement, tu as des gens, et ça se voit souvent sur les forums, qui vont dire à tel journaliste qu'il n'est pas légitime pour parler de tel truc. Et donc là, on arrive dans un engrenage qui est sans fin en termes de crédibilité, en fait, pour la profession.
Mais de toute façon, moi, vous le savez, j'ai un problème d'une manière générale avec les tests, enfin, comment dire. En fait, j'ai un problème avec les tests qui ont une valeur de guide d'achat, si vous voulez. Ouais. Parce que je pense que pour faire un guide d'achat, il faut être objectif.
Mmh.
Et tu peux pas être objectif sur des trucs comme ça, quoi.
Ouais.
Et ça, plus le fait qu'on est à une époque où il y a une telle profusion d'informations, en fait. Je veux dire, moi, très sincèrement, quand je vais lire les avis Steam d'un jeu, j'ai plus d'informations que dans un test. Parce que quand je lis les avis Steam d'un jeu, par exemple, je peux, par exemple, me faire une statistique sur le nombre de personnes qui ont eu un problème technique sur ce jeu-là. Une information que je n'aurais jamais dans un test, parce que si ça se trouve, le testeur, il a eu du bol, et il n'a pas eu de problème. Sauf que, quand tu vas sur Steam, tu te rends compte que ben, le jeu, il a 50% d'avis positifs, et qu'il y a un risque d'avoir un problème sur ce jeu. Ça, plus le fait que, encore une fois, un test, ce n'est l'avis que d'une personne, et là, je rejoins un peu ATH, c'est-à-dire que, à la limite, se baser sur l'avis d'autres personnes, pourquoi pas. Mais de toute façon, l'avis d'un seul journaliste ne peut pas faire foi, en fait. Parce que, enfin, moi, je suis désolé, il y a des jeux, par exemple, que je considère comme cultes, et dont je sais que certains journalistes ne les aiment pas, ou les trouvent mouifs, et je serais passé à côté de ces jeux-là à l'époque si j'avais dû écouter ces journalistes-là, en fait. Donc c'est pour ça que, par nature, c'est même pas que j'ai pas confiance en les journalistes. C'est que je n'ai pas confiance en l'avis d'une seule unique personne. Et pour moi, ça, de toute façon, d'une manière générale, ça pose la question de l'importance qu'on accorde aux tests aujourd'hui sur les sites de presse, alors que, à mon humble avis, et ce n'est que le mien, on ferait bien mieux d'accorder plus de ressources à des articles de fond ou ce genre de choses, ce que font certains sites par ailleurs.
Ouais, mais enfin, juste pour terminer là-dessus, sache que il y a eu des statistiques qui sont faites sur les sites de jeuxvideo.com ou de Gamekult ou n'importe quel autre site. Il y en a pas mal de sites qui en ont parlé.
les articles de fond, c'est pas les choses qui sont plus, c'est les choses où par exemple GameCult a son offre premium parce que c'est entre guillemets c'est destiné à une niche de personnes qui veulent payer pour voir ce type de contenu là. Et ils savent très bien que quand tu le mets sur le site, et ben la plupart des gens, ils en ont rien à foutre. Et malheureusement, bah pourquoi c'est les tests qui sont plus mis en avant ou bien autre chose qui marche mieux? Bah parce que tout simplement parce que ça ramène plus d'argent, voilà.
Oui, mais ça nous ramène à la question du modèle économique évoqué tout à l'heure par Mordren. C'est-à-dire que effectivement, tant que tu restes dans la logique de la publicité, tu dois faire du chiffre. Maintenant, si tu cherches à être rémunéré autrement, par exemple comme Canard PC, bah à un moment, moi je suis désolé, mais il va falloir trouver autre chose que des news que tu trouves partout sur Internet et des tests que tu trouves partout sur Internet aussi, parce que moi je suis désolé, mais à côté des testeurs professionnels, t'as 15 000 gugus sur Internet qui ont des avis tout aussi pertinents que les mecs qui sont payés pour ça. Si tu cherches à être rémunéré autrement, il faut faire des choses qu'on voit pas ailleurs, et les choses qu'on voit pas ailleurs, c'est des sujets de fond qui ont pas été abordés ou que tu vas traiter sous un autre angle, etc. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe à la suite.
Ouais.
Mordren, tu vas nous parler de Anthem.
Ouais, on va parler de donc Anthem, comme on dit en anglais. C'est le nouveau produit BioWare qui a été annoncé à l'E3 2017, qui devait sortir fin 2018, qui a été décalé à début 2019 pour l'année fiscale d'Electronic Arts et de BioWare, évidemment. C'est la nouvelle production BioWare. Alors, on sait que BioWare a des petits soucis en ce moment, puisque en 2017, ils ont sorti Mass Effect Andromeda, qui s'est un petit peu fait chier dessus dès son lancement, et d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de mieux depuis.
Ce qui a entraîné d'ailleurs la fermeture de la branche de BioWare qui s'occupait de ce jeu-là. Hein.
Voilà, qui a été en fait englobé dans EA Motive, il me semble que ça s'appelle comme ça, ce nouveau studio. Pourquoi on vous parle aujourd'hui de BioWare? Donc évidemment, non seulement pour son report, mais aussi pour le fait que, a priori, le succès d'Anthem pourrait déterminer en fait l'état dans lequel on retrouvera BioWare d'ici 2 ans en fait.
The serial killer is back.
Ouais, c'est ça. Et ça nous fait un petit peu penser à Visceral Games, hein, ce qui s'est passé l'an dernier avec le développeur de Dead Space. Et ouais, à savoir que bon, le développement a été compliqué puisque le moteur Frostbite, c'est compliqué.
Ça vous rappelle quelque chose, hein?
Voilà. oui, effectivement, ça nous rappelle quelque chose. Frostbite, c'est un moteur qui a été développé pour les Battlefield et les FPS de DICE, et forcément pour faire des RPG c'est plus compliqué, donc BioWare a toujours eu du mal à prendre à bras-le-corps ce moteur-là. A priori, il y a du mieux, le développement est toujours compliqué, mais en tout cas ce qu'ils savent c'est que le report à début 2019 c'est le dernier carat, c'est-à-dire qu'ils pourront pas annoncer un autre retard. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'Anthem sorte début 2019, sinon ça va être compliqué. Donc a priori
année fiscale mec hein.
Année fiscale, et là on en vient à un gros problème qu'a l'industrie du jeu vidéo, mais bon bref, on en a déjà parlé. Et donc c'est compliqué chez BioWare, il y a un petit peu cette peur du coup que Anthem sorte mal fini parce qu'il doit sortir. Qu'est-ce que t'en penses, Tiens?
Oh, moi je pense qu'on va bientôt avoir l'annonce de la fermeture de BioWare, c'est tout. C'est exactement tous les symptômes qu'il y avait eu chez Visceral. C'est exactement la même histoire. Prenez l'article de Kotaku, parce que ça vient de Kotaku encore une fois.
Ouais.
Exactement d'ailleurs le même journaliste qui avait fait justement l'article sur Visceral.
Qui est très bien informé. Hein.
Vous prenez ce qu'il a dit sur Visceral, c'est exactement le même scénario qui est en train de se dérouler sous nos yeux là. Et vous prenez ce qu'il avait dit sur Mass Effect Andromeda, exactement la même chose. Alors moi je sais pas, à un moment donné, j'observe la loi des séries, hein, jusqu'à maintenant ce scénario-là a produit le résultat de la fermeture du studio, je pense que le prochain sur la liste c'est BioWare, c'est tout, point. Après, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Ah oui, j'avais quand même une chose à ajouter, parce que apparemment, de ce que j'ai lu, il y a des employés de BioWare qui ont peur que leurs propos soient mal interprétés, parce que Electronic Arts passerait pour un méchant de dessin animé Disney, etc., que les joueurs ont tendance à exagérer, etc. Écoutez, chers employés de BioWare, je respecte votre travail, je me doute que c'est pas facile, et que, en plus, vous devez avoir des conditions de travail pas si dégueulasses que ça par rapport au reste de l'industrie, parce que on sait que c'est plus gérable, on va dire, de bosser dans des gros studios, tu sais, où t'as des assurances ou des trucs comme ça, que t'as pas quand t'es indépendant, par exemple. Ça, on le sait. Mais, je voudrais juste dire une chose simple. J'arrêterai de prendre Electronic Arts pour un méchant de dessin animé Disney le jour où Electronic Arts arrêtera de se comporter comme un méchant de dessin animé Disney. C'est-à-dire que, je suis désolé, les faits sont là, hein. Combien de studios légendaires ont été fermés par Electronic Arts? Combien de gens ont été mis sur le carreau par Electronic Arts? C'est tout, point. Et surtout, autre chose, pourquoi Electronic Arts est détesté comme ça, alors que par exemple, il y a des studios comme CD Projekt, qui visiblement est pas très réglo avec ses employés, et défendu par certains joueurs? Alors que quand même, c'est pas un petit studio, CD Projekt, hein. C'est une grosse boîte qui fait du AAA, etc. Et pourquoi à côté, Electronic Arts est détesté? J'ai tendance à penser qu'en fait, c'est parce que quand j'achète un produit CD Projekt, j'ai pas l'impression qu'on prend pour un gros con. Moi, je suis désolé, quand je vois une boîte comme Electronic Arts, je peux pas m'empêcher de dire qu'avec toutes les pratiques problématiques qu'il y a sur leur jeu, bah c'est pas une boîte qui est réglo, et oui, pour moi, c'est un méchant dessin animé Disney. Désolé de le dire.
Mais sinon, enfin, concernant ce jeu-là, ce qui est très problématique en fait à l'heure actuelle dans le jeu vidéo, c'est vraiment les coûts des développements qui ne cessent d'augmenter. Et malheureusement, en fait, ce jeu-là, il ne déroge pas à la règle. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde place les œufs dans le même panier. Alors qu'on sait très bien qu'en termes purement économiques, c'est une des bases de l'économie, c'est de pas placer tous ses œufs dans le même panier. Parce que si t'as un truc qui se casse la gueule, t'as pas quelque chose qui est réel derrière. D'ailleurs, c'est ce que Ubisoft a très bien su faire avec des jeux comme Just Dance, Les Lapins Crétins, etc., qui étaient des machines à fric pour justement produire les gros triple A, Assassin's Creed, les Far Cry, etc.
Et des machines à fric qui coûtaient pas un rond. Hein.
Voilà. Ouais. Après, Electronic Arts, ils ont leur FIFA, toutes les licences de sport qui leur amènent un contenu colossal. Mais le problème, c'est que BioWare, c'est un type de jeu, finalement, que... Bah, si il se vend pas, tu vois, ils en ont rien à foutre. La Mass Effect Andromeda, le jeu a été raté. À la place que... Electronic Arts et BioWare se remettent en question, bah non, ils stoppent la série pendant un moment et ils vont peut-être revenir un jour, mais on sait pas trop comment ça va se passer. Et le problème, c'est que Electronic Arts, ils mettent tellement de pression à leurs développeurs que, enfin, moi, je serais en train de bosser sur ce jeu-là, je me dis, bah, ok, attends, je vais commencer à chercher un taf à côté parce que ça pue du cul un peu leur histoire, quoi.
Bah, disons que quand tu vois l'historique des choses, bon. Bon, bah écoute, j'espère que la prochaine fois qu'on parlera d'antenne, ça sera pas pour annoncer le décès de BioWare, c'est tout. Hein. Et puis, ah oui, autre chose, oui, il faut absolument tenir les délais, rien à foutre que le jeu il soit pas terminé, allez-y, sortez-le avant mars, parce que ouais, il y a notre bilan de l'année, là, les actionnaires, ils vont grogner, enfin bref.
Attends, j'ai reçu un autre courrier de Electronic Arts. Alors, voyons voir. Alors, là, c'est les actionnaires. Fermez vos gueules, on a de l'argent à se faire. Au pire, vous avez les patchs. Bande de connards. Cordialement.
C'est exactement ça en plus. Allez, on va passer à la suite, Mandren.
Ouais. Alors la suite, c'est le Xbox Game Pass qui prend du galon hein, chez Microsoft, puisque on sait désormais que tous les titres estampillés Microsoft en fait arriveront day one dans le catalogue Xbox Game Pass. Le Xbox Game Pass, qu'est-ce que c'est? Pour rappel, c'est cette espèce de volonté de créer un abonnement mensuel de 10€ par mois pour avoir accès à un catalogue qui varie chaque mois avec des jeux donnés. On savait, à l'époque en fait, il n'y avait pas les nouveautés qui entraient dans le Xbox Game Pass. Et voilà, Microsoft l'a annoncé cette semaine. Il y aura désormais les nouveautés exclusives telles que Sea of Thieves, qui est en bêta d'ailleurs ce week-end, State of Decay 2 et Crackdown 3. D'ailleurs, pas de nouvelles d'Ori and the White Forest 2. Mais en tout cas, voilà, les abonnés au Xbox Game Pass pourront avoir accès day one à ces jeux-là. Donc c'est dans une volonté évidemment de développer cette offre d'abonnement et du coup d'augmenter le socle en fait d'abonnés, quitte quelque part à perdre sur les ventes physiques de ces jeux-là. A priori, Microsoft a fait ce choix de faire fi finalement de ces chiffres de ventes physiques pour avoir un flot finalement de cash qui arrive tous les mois assez stable. Qu'est-ce que t'en penses, Tian?
Bon, j'en pense que ça ressemble énormément à ce qu'ils font dans le domaine du logiciel avec Office 365, ce genre de choses déjà. C'est pas nouveau pour eux, entre guillemets. c'est bien pour les gens qui veulent faire de la location, tu sais, qui veulent pas avoir des boîtes, qui s'en foutent. C'est très bien pour eux, c'est super cool. Mais je n'oublie pas que Microsoft, en début de génération, a voulu nous mettre une douille. Et je me méfie toujours de ce genre d'offre. Parce que je me dis, ok, donc si tout le monde passe à ça, donc du coup, la prochaine étape, c'est... Enfin, tu sais, c'est la première dose qu'on te donne gratuit pour... voilà. Dans un monde idéal, tu sais, tu pourras avoir le meilleur des deux mondes, mais je sais que chez les constructeurs et les éditeurs, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Dernière chose, je trouve intéressante ce que ça dit de la politique de Microsoft à venir. Parce que si tu fais une annonce pour ça, ça veut dire que tu as l'intention de l'alimenter en nouveauté, cette offre. Putain, ça veut dire que Microsoft va enfin se sortir les doigts du cul et que peut-être à l'E3 on va avoir des annonces, quoi.
Lol. ATH.
Moi, le plus gros problème que ça me pose là-dedans, c'est que les jeux, en fait, Microsoft uniquement seront disponibles dès la sortie. Sauf qu'on dit bien que c'est les jeux Microsoft. Donc, il n'y a pas grande nouveauté qui a été annoncée. Et c'est un peu ce qui manque, entre guillemets, à la Xbox One. Il manque des exclus fortes. Donc, Microsoft, s'ils arrivent avec pas mal d'exclus, mais déjà, il faudrait qu'ils en mettent pas mal. C'est quelque chose qui coûte un peu de pognon et en plus de ça qui met un peu de temps à être développé. Je pense pas que ça va arriver d'ici là. Et en plus de ça, je trouve aussi que à l'heure actuelle, les consoles, je parle pas du PC mais je parle vraiment des consoles, ne sont pas adaptées à ce type de consommation. Je m'explique pourquoi. Un jeu vidéo, ça pèse quand même, on va dire, aux alentours de 50 gigas pour des jeux de taille moyenne. 50 gigas à télécharger, il faut en plus de ça prendre en compte l'espace sur le disque dur. La Xbox One met un temps considérable à installer ces jeux, contrairement à la PS4 qui installe un jeu en 2 minutes.
Oh, fais pas chier, ATH, je prends la Elite et puis c'est tout, oh là là.
Et je trouve que, tu vois, faire un Netflix du jeu vidéo, ça peut être pas mal. Mais il faut que la technologie soit là et que derrière, le catalogue suive, quitte des éditeurs tiers. Parce que les éditeurs tiers, je pense pas que, tu vois, que Electronic Arts, ils vont dire, bah, on va mettre FIFA 19 l'année prochaine sur leur truc, là, ouais, ouais. Non, mais c'est pas grave, on va perdre 70 boules, mais on va leur faire plaisir pour qu'ils aient un abonnement.
Je précise que pour le moment, sur l'offre, il y a un peu plus de 160 jeux disponibles.
Oui, mais donc pas mal de jeux pas récents, quoi. C'est des jeux qui sont sortis auparavant, qui ont intégré l'offre. Après, les jeux Xbox, Microsoft Studio vont arriver dans le catalogue, c'est normal. Mais en tout cas, je pense pas que les éditeurs tiers vont venir donner leur... vont dire « Amen, prenez nos nouveautés, faites-vous plaisir, quoi.
» Alors, bon, c'est pratique de parler de Netflix du jeu vidéo, mais dans les faits, rappelons quand même que Netflix, c'est un service de streaming. Le Xbox Game Pass, c'est juste tu télécharges le jeu et tu y joues, donc il n'y a pas de streaming là-dedans. Mais si on veut véritablement parler de Netflix, parlons de ce qu'ils font vraiment dans leur ligne éditoriale, c'est la création de productions originales. Et j'en avais déjà parlé à l'époque où ça avait été annoncé, l'Xbox Game Pass, pour s'assurer que l'abonnement prenne plus d'utilisateurs, en fait, il faut s'assurer qu'il y a un flux continu de mise à jour exclusive de ce catalogue, en fait. Là, si on parle sur 2018, on a 3 jeux. Donc Sea of Thieves, State of Decay 2 et Crackdown 3. Alors, c'est bien, si vous voulez, mais...
Encore que ça dépend du point de vue. Hein.
Je dis c'est bien, c'est surtout de l'ironie, mais dans les faits, est-ce que 3 jeux comme ceux-ci vont permettre en fait à Microsoft de s'assurer que les gens viennent sur plusieurs mois, parce que sinon en fait ils ont juste bradé leur jeu à 10€. Parce que tel gars qui veut jouer à State of Decay 2, bah il s'abonne un mois à 10€. S'il l'a torché en un mois ou en moins d'un mois, eh ben il aura payé 10€ son jeu. Et ça, ça vaut pas le coup pour Microsoft. Du coup, il faut qu'ils réussissent à augmenter de façon significative leur abonnement et leur catalogue pour que les gens restent. Et ça, c'est le vrai problème de la production de jeux vidéo à l'heure actuelle, c'est que ça prend énormément de temps. Et de proposer des AAA, déjà, on a vu que Microsoft était assez incapable d'en faire d'une manière quantitative, sur les exclusivités en tout cas. Et du coup, ils vont devoir se tourner vers les éditeurs tiers, c'est ce que fait Netflix à l'heure actuelle, hein, parce que sur le catalogue de Netflix, il n'y a pas que des choses qui sont produites par Netflix, loin de là, mais il y a aussi des nouveautés qui sont allées chercher à la force de leurs dollars auprès des publishers américains, voire français. Et ça, c'est quelque chose que Microsoft doit faire s'il veut s'assurer que le Xbox Game Pass ajoute des abonnés. Mais ça,
ce soit pas un feu de paille, quoi.
C'est ça. Ça, à l'heure actuelle, c'est pas suffisant, en fait, s'ils veulent vraiment que le Xbox Game Pass s'installe dans les chaumières.
Bon, Et on va terminer, Mandren, avec la visibilité des jeux sur Steam.
Alors, c'est un sujet, évidemment, qu'on traite régulièrement dans le podcast. C'est cette explosion qu'il y a eu dans la publication de jeux vidéo, que ce soit indépendant ou pas, sur Steam, avec cette idée incroyable qu'est le Steam Direct, finalement, qui était d'ouvrir les vannes chez Valve, et on a vu ce que ça a donné, hein. C'est des milliers et des milliers de titres qui sont arrivés sur le magasin Steam.
On est à peu près à 50, voire plus, jeux par jour.
Ouais. Du coup, ça rend extrêmement compliqué le fait de publier un jeu et d'émerger dans cette masse. Ce qui pose gravement problème, évidemment, au milieu du jeu indépendant. Et c'est ce que un ex de Tiny Build qui s'appelle Mike Rose, qui a donné une conférence à PC Connect. Voilà, il en a parlé dans cette conférence-là, et il s'adressait évidemment à des développeurs de jeux vidéo indépendants et leur a dit, voilà, dites-moi combien vous souhaitez, vous pensez vendre votre jeu. Il leur a répondu, divise ça par deux. Voire pire, en fait. Dans le premier mois de la sortie de leur jeu, en fait, qu'ils ne rêvent pas en vendre plus d'un millier.
Et pour ça, ils s'appuient sur des chiffres, hein, c'est-à-dire que les ventes médianes, etc., c'est quelques milliers. Voilà.
Voilà. Donc, bon, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil. Hein, c'était une conférence qui, pour le coup, était assez déprimante, hein, sur le milieu du jeu vidéo indépendant. Mais c'est aussi important qu'une voix telle que celle-ci prenne la scène pour s'adresser à des gens qui font ça, qui font du jeu vidéo indépendant, pour faire en sorte qu'ils se soient préparés finalement à arriver dans la jungle qu'est Steam à l'heure actuelle post-Steam Direct.
Alors, pourquoi je voulais parler de cette actualité cette semaine ? Eh oui, parce que bon, ça vous a pas échappé, c'est un sujet dont on vous a déjà parlé, c'est pas des choses nouvelles qu'on vient de dire là. Parce qu'il y a une petite musique en ce moment que j'ai entendue et qui m'agace un peu. C'est-à-dire que... Alors, il y a une remarque de base que je trouve pas forcément fausse, mais il y a des choses à redire quand même. J'ai entendu dire, par exemple, que c'est pas la peine de rêver, de toute façon, même si Valve faisait le ménage, il y a une telle profusion de bons jeux, en tout cas de jeux de qualité correcte, donc qui auraient toute légitimité à sortir sur Steam, il y a une telle profusion que de toute façon, on ne reviendra jamais en 2010, où le simple fait de sortir son jeu en indépendant sur Steam garantissait le succès. Ça ne reviendra pas, il y a trop d'acteurs sur le marché, et sur ça, je suis d'accord. Pour autant, il y a aussi un autre discours qui m'agace, c'est celui de dire que, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas grave, il n'y a rien à faire, Valve aura beau faire des mises à jour de son interface, ça changera rien, Valve aura beau nettoyer son catalogue, de toute façon, ils n'ont aucun intérêt à le faire, et de toute façon, ça ne changerait rien. Ces gens-là, en général, tu sais, ils utilisent l'argument de dire « Regardez, moi j'arrive sur Steam, je vais sur les dernières sorties, je tombe que sur des bons jeux. » Ce qui est vrai. Sauf que ce que les gens oublient de dire, c'est que pour que ces jeux ressortent dans les tendances de Steam, il a bien fallu, à un moment donné, qu'il y ait des premiers acheteurs, et que ces premiers acheteurs soient tombés sur des bons jeux, et que ils aient donné un avis positif, et qu'à un moment donné, il y a eu suffisamment d'avis positifs pour que ça ressorte dans les tendances de Steam. Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que pour fouiller, je peux vous dire que c'est un vrai merdier pour trouver des nouveautés qui n'ont pas été testées déjà par des gens qui sont sacrifiés pour regarder un peu ce qu'il y avait dans toutes les merdes. Déjà, tu sais, le simple fait que j'arrive sur Steam, je vais dans les nouveautés qui ont été testées par personne et j'ai en tout cas l'assurance de ne pas perdre mon temps et de pas tomber, par exemple, tu sais, sur un énième jeu qui a été assemblé avec des assets achetés sur le store de Unity et ressorti comme ça à la va-vite. Je rappelle que des assets, c'est aussi bien des éléments graphiques que des boucles de gameplay, par exemple, ou ce genre de choses. Et il y a plein de développeurs opportunistes, on va dire, qui, en gros, ils t'assemblent, ils mettent une boucle de gameplay, un asset comme ça, puis pop, 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 et ça te fait un jeu. Et donc, déjà, le simple fait de me dire « je peux acheter ce jeu, j'ai l'assurance de pas perdre mon temps et de pas tomber sur une merde », ça me ferait gagner tellement de temps, tu sais, dans ma quête de nouveautés. Et surtout, ça pourrait permettre à des jeux qui n'ont pas forcément eu une communication gargantuesque de ressortir beaucoup plus vite dans les tendances de Steam. Et on sait que le temps, c'est de l'argent. à la sortie d'un jeu. C'est-à-dire que plus le temps va passer, moins tu vas en vendre. Et déjà, rien que ça, tu vois, ça aiderait les développeurs. Ensuite, une dernière chose, pourquoi il faudrait que de toute façon Valve fasse le ménage dans son espèce de merdier? Et là, je vais parler d'une vidéo qu'a fait récemment Jim Sterling. C'est sur un jeu dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie de lui faire de la publicité. Mais en gros, c'est un jeu qui est parfaitement homophobe. Et Valve ne bouge pas. Et je pense que l'homophobie, c'est un truc qui doit être à peu près illégal dans pas mal de pays. Je sais pas, à un moment donné, je veux bien que Valve n'ait aucun intérêt à se bouger le cul, mais il faudrait quand même des gens pour contrôler ce genre de choses, non? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. ATH?
Il y a un autre problème qui a été mis en exergue par donc Paul Louis Santos, qui est le fondateur de Flux Game Studio, qui est un studio donc de jeux vidéo indépendants, qui a fait une déclaration donc auprès du site pcgamesn.com et qui parle en fait justement de la stratégie de lancement des jeux. Parce qu'il faut savoir que sur Steam, lorsque un développeur souhaite mettre un jeu en vente, même le jour de la sortie, il est possible qu'il le mette en réduction. Seulement, il peut pas le mettre le temps qu'il veut et il faut qu'il attende 30 jours minimum pour pouvoir remettre à nouveau les soldes sur le jeu. Et ce qui fait réfléchir pas mal de développeurs en fait à sortir les jeux à une période cruciale, c'est-à-dire soit pendant les périodes de soldes, comme ça le jeu en fait bénéficie de l'engouement et de l'apport que ça amène sur le site pour justement pouvoir vendre des jeux à ce moment-là, tout en ayant déjà le jeu de base un prix réduit, ou soit d'attendre que les périodes de soldes soient suffisamment espacées entre elles pour pouvoir sortir le jeu à un instant T et justement le sortir directement avec un tarif réduit et qui est assez de temps entre les différentes périodes de soldes. Et du coup, en fait, ça pose un souci, c'est que il y a beaucoup de studios qui vont penser comme ça, en fait. Et du coup, ça fait que, bah, quoi qu'il arrive, ça va créer un embouteillage, parce que, enfin, en tant que développeur indépendant, tu veux que ça marche pour toi. T'as pas envie que ton jeu, il se retrouve au fond des limbes, perdu, et que personne n'y joue. T'as quand même fait quelque chose, t'as quand même envie que les gens y jouent, que les joueurs le découvrent. Moi, je trouve que Steam, ce qu'il devrait faire, c'est, au pire, enfin, essayer de proposer comme une sorte de catalogue de recommandations de la rédaction de Steam, ou je sais pas moi, des trucs qui sont mis en avant par les joueurs, ou ce genre de choses-là, qui pourraient...
Après, c'est ce qu'ils font avec les curateurs. Hein. Enfin, l'idée, c'est que tu t'abonnes à des curateurs qui vont apparaître sur ta home, c'est plus ou moins déjà ce qu'ils font sur ça.
Ouais, mais il faut que tu t'abonnes toi-même à des curateurs, mais t'as pas, genre, si tu
par
veux...
Par défaut, tu veux dire que t'as pas une sélection...
Par exemple, ce que t'as sur un, même si je suis pas fan de ce type de modèle-là comme t'as sur Apple Store, mais t'as au moins, tu sais, quand tu vas sur un store, bah t'as 400 milliards de jeux, tu sais pas quoi choisir. Bah t'as Apple vous recommande Machin Chouette et Angry Birds 414, mais au moins ils te proposent quelque chose, tu vois.
Bon, rien à ajouter, messieurs ?
Non.
On va terminer sur notre jeu du moment. Et le jeu du moment, c'est Slay the Spire.
Alors, Slay the Spire, qu'est-ce que c'est ? Il me semble que c'est un jeu de cartes, voilà. Mais alors, un jeu de cartes, j'espère qu'il a d'autres choses à apporter que, du Hearthstone-like, du je ne sais quoi, parce que les trading card games, on commence à en avoir un petit peu soupé. Est-ce que c'est plus que ça, ou est-ce que c'est juste ça ?
Alors, c'est un jeu de cartes, mais c'est pas la composante principale pour moi, mon cher Morgan.
D'accord.
C'est un roguelite.
Ah.
Alors, je sais qu'on pourrait dire exactement la même phrase que celle que tu viens de prononcer pour les roguelites. Hein. Attention.
C'est exactement ça. Bon, du coup, là, a priori, donc, il y a des mécaniques de jeu de cartes avec des mécaniques de roguelite.
Et c'est là le twist, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est un jeu solo. Donc, ce n'est pas du Hearthstone. Tu ne vas pas jouer avec d'autres joueurs. C'est un jeu purement solo. Et surtout, c'est la rencontre entre Faster Than Light et un jeu de cartes. C'est-à-dire que, fondamentalement, Slay the Spire a exactement la même structure que FTL. Je rappelle, FTL, donc jeu où vous jouez un vaisseau spatial, vous allez naviguer dans l'espace. Quand vous arrivez dans l'espace, t'as un espèce d'arbre qui se met en place qui représente les différents chemins que tu peux emprunter. Et en fonction du chemin que tu vas emprunter, tu vas arriver dans des nébuleuses différentes. Mmh. En fonction de la direction que tu vas prendre, des fois tu vas tomber sur des magasins pour mettre à jour ton vaisseau, etc. Ou tu vas tomber sur des événements aléatoires qui vont permettre soit de te mettre dans la merde, soit vont t'apporter de nouveaux avantages, de nouveaux équipements, un nouveau membre d'équipage, etc. Celeste de Spire fonctionne à peu près sur la même structure. C'est-à-dire que, comme l'indique le titre, le but du jeu, c'est de vaincre la tour.
Ouais.
La tour, c'est une espèce de dédale magique divisée en trois niveaux. Et chacun de ces niveaux est doté d'ennemis de base, de mini-boss et de gros boss. Et c'est là où il commence à y avoir des différences avec FTL, parce que vous savez que dans FTL, en dehors du combat final, fondamentalement, il n'y a pas de boss. Mmh. T'as les combats de base contre les ennemis, et puis basta. Là, dans Slay the Spire, tu as non seulement des ennemis de base, mais tu as aussi des mini-boss qui sont plus difficiles à tuer que les ennemis de base, mais qui vont te rapporter des items qu'on appelle les reliques. Des reliques qui vont t'apporter des améliorations permanentes.
D'accord.
Sachant que, attention, il faut que tu gères ta santé, du coup, parce que tu sais qu'à la fin du niveau, tu as un boss qui est pour le coup beaucoup plus costaud que les autres. Et que, entre-temps, tu auras potentiellement, tu sais, croisé des feux de camp à la Dark Souls, où tu vas pouvoir te reposer soit pour... non, rien à voir avec Dark Souls, hein. C'est pas le Dark Souls des jeux de cartes.
Ah bah j'achète pas alors.
Voilà. Sachant qu'au feu de camp, t'es confronté à des choix, c'est-à-dire que, par exemple, soit tu te reposes pour regagner un certain nombre de points de vie, soit tu utilises cette occasion-là, cet arrêt, pour améliorer une de tes cartes. Mais par contre, si tu améliores une de tes cartes, tu ne pourras pas te reposer.
Mmh.
Tu vois. Donc, d'accord. À chaque fois, il y a des décisions à prendre. Par exemple, quand tu es à la base de la tour et tu choisis quel chemin tu vas prendre, parce que ça aussi, c'est une autre différence avec FTL. Tu sais, dans FTL, quand tu rentres dans un système, c'est toujours le même point d'entrée. Tu prends un point d'entrée et ensuite, tu choisis où tu vas aller dans l'arbre pour atteindre la sortie, en fait.
Mmh.
Là, c'est pas pareil. Tu as plusieurs entrées. Et en fonction de l'entrée, bah, ce qui est pas mal, c'est qu'on te met les trucs que tu peux rencontrer. C'est-à-dire que t'as une icône pour les petits ennemis, t'as une icône pour les mini-boss, etc. Sachant qu'il y a des icônes spéciales aussi sur la minimap, qui sont les points d'interrogation. Et là, c'est là où on entre dans tout le sel de Slay the Spire. Ces points d'interrogation, ça peut aussi bien être des événements aléatoires à la FTL, où tu vas potentiellement récupérer des trucs. Mais là où c'est plus intéressant que FTL, tu sais, c'est que FTL, en général, tu vas choisir un événement. Et c'est comme si tu jetais un jet de dés, quoi.
Oui.
À moins que tu connaisses énormément le jeu et que tu sais que cet événement-là, il y a beaucoup de chances que ça soit du pâté, quoi, ce que tu vas récupérer, t'es dans la merde. Alors que dans Slay the Spire, en général, tu vas tomber sur un item cool. Mais par contre, si tu veux le récupérer, il va falloir que tu te chopes des malus. C'est-à-dire que dans ce jeu, il y a ce qu'on appelle les malédictions, qui sont en fait des cartes qui vont s'ajouter dans ton deck. Et ces cartes-là, à chaque fois que tu vas les tirer, tu vas avoir des malus. Sachant que potentiellement, ces cartes, elles peuvent foutre grandement la merde dans ton jeu. Je prends un exemple, que j'ai vu l'autre jour d'ailleurs sur la chaîne de Mister MV, qui a réussi d'ailleurs à finir le jeu dès sa première run. On sent le joueur de FTL très expérimenté.
Clairement, ouais.
Il avait un problème. Le deck qu'il avait mis en place, si tu veux, c'est un deck qui se basait énormément sur une carte, qui est très fort sur le premier personnage, parce qu'il y a plusieurs personnages aussi, mais on y reviendra après. En fait, c'est une carte que tu ne peux jouer que quand tu n'as que des cartes attaque dans ton deck. Et c'est une carte qui fait énormément de dégâts. Le problème, c'est que il avait chopé une malédiction, et comme cette malédiction, c'était pas une carte attaque, bah il pouvait pas jouer cette carte-là, qui était très importante dans son build, en fait.
D'accord. On va peut-être préciser que c'est un jeu qui, à l'heure actuelle, est en Early Access. Qu'à l'heure actuelle, le jeu coûte 15,99€ et coûtera plus cher lorsqu'il sortira terminé. Il y a une vraie question, je reviens sur les habitudes un petit peu du genre jeu de cartes en jeu vidéo. C'est un petit peu bah, tout ce qui est booster de cartes et comment on obtient de nouvelles cartes. certains jeux comme Hearthstone proposent du coup d'acheter des boosters avec de l'argent in-game ou avec du vrai argent. Est-ce que c'est une composante qui est présente dans Slay the Spire ?
Il y a zéro monétisation, c'est un jeu 100% solo.
D'accord.
Par contre, pour préciser, comment fait-on pour récupérer des cartes dans Slay the Spire ?
Ouais.
Tu as une jauge d'expérience, et à chaque fois que tu passes un niveau, tu récupères de nouvelles cartes.
D'accord. Donc c'est un set de données, c'est pas aléatoire ?
Je suis pas sûr, en fait.
D'accord.
Je pense que c'est aléatoire, mais en fait, il faudrait que je réinitialise ma sauvegarde, si tu veux, pour vérifier... C'est pas le genre de truc que je ferais, mais je pense quand même qu'il y a une graduation dans la puissance des cartes, si tu veux. Parce que j'ai quand même remarqué hein, que les dernières cartes que j'ai chopées, elles étaient un poil plus puissantes que les premières que j'avais chopées au départ, quoi.
Okay.
Plus tu vas aller loin, en fait, plus tu vas gagner d'expérience, plus tu vas gagner d'expérience, plus tu vas gagner de niveau, et plus tu vas débloquer de nouvelles choses qui, à ta prochaine run, en fait, vont enrichir le gameplay du jeu, quoi.
D'accord. Pour info, hein, sur la page du magasin de Slay the Spire, on nous précise qu'il y a plus de 200 cartes qui sont actuellement fonctionnels. Il y a plus d'une centaine d'objets et de reliques à découvrir, donc du coup qui changent un petit peu votre expérience de jeu et votre schéma tactique. Et on nous précise que les niveaux sont générés procéduralement, forcément, puisque c'est un roguelike. Et justement, est-ce que le mélange des genres, finalement, entre le roguelike et le jeu de cartes, est-ce que ça fonctionne finalement, ou est-ce que c'était quelque chose qui était cool sur le papier et qui finalement tombe un petit peu comme un soufflet?
Alors, juste à titre d'information, c'est un jeu qui a 96% actuellement d'avis positifs sur Steam, alors qu'il est en accès anticipé.
Ok, donc tu réponds un petit peu à la question.
Voilà, c'est le premier élément de réponse. Alors, est-ce que je suis d'accord avec ces 96%? Oui. C'est même tellement une évidence que je me demande pourquoi personne n'y a pensé avant.
Ouais.
C'est-à-dire que pourquoi ça fonctionne bien? Parce que, vous le savez, le roguelike, c'est un genre où il faut s'adapter en permanence. C'est-à-dire que comme tu as la menace en permanence de devoir crever, des fois, tu te retrouves face à des choix cornéliens. Or, quand même, qu'est-ce qu'il y a de plus cornélien qu'un jeu où, à chaque nouvel ennemi, on va te proposer une nouvelle carte à ajouter à ton deck et il faut que tu te fasses un build? Et crois-moi que quand t'es dans un roguelike avec la menace permanente de crever au prochain combat, t'y réfléchis à ton build, quoi.
Ouais.
C'est ça le truc, c'est que pourquoi ça fonctionne putain de bien? Parce que la mort permanente, c'est juste l'idée de génie qu'il fallait mettre pour un jeu de cartes, quoi.
Parce que du coup, en fait, ton deck, il évolue pendant la partie. C'est-à-dire que t'as pas une phase juste avant de lancer ta partie où tu crées ton deck et le deck ne change pas pendant toute la partie. À chaque combat, en fait, le deck se garnit de nouvelles choses et de nouveaux potentiels schémas tactiques, finalement.
Oui, il se garnit, ou il ne se garnit pas, d'ailleurs.
Oui.
Parce que tu peux choisir aussi de dire, vos cartes, c'est de la merde, ça va pas avec mon deck.
Mmh.
Et même, ça foutrait de la merde dans mon deck, en fait.
Ouais.
Parce que, du coup, je commencerais à tirer des cartes inutiles qui ralentiraient la synergie qu'il y a déjà dans mon deck. Même le non-choix, si tu veux, c'est un choix dans Slay the Spire. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que les marchands ont une fonctionnalité spéciale où tu peux retirer les cartes. Parce que certes, c'est une fonctionnalité... Alors ça, j'ai découvert... Petit tips hein, pour ceux qui vont débuter à Slay the Spire. Parce que ça, je ne savais pas au départ, j'ai découvert sur le tard. Et mon Dieu, si j'avais su ça, ça m'aurait grandement facilité la vie. Il faut savoir que les malédictions, par exemple, comme c'est des cartes qui vont se rajouter dans ton deck, puisque tu peux retirer des cartes chez les marchands, ça veut dire que tu peux retirer des malédictions aussi. Et ça, il n'y a aucun tuto qui va te le dire. C'est un truc que tu vas découvrir de manière empirique ou instinctivement comme ça, tu vas te dire « Attends, comme c'est une carte, est-ce que peut-être je devrais pas aller checker si je peux la retirer ?» Et c'est ça où Slay the Spire est génial aussi, je trouve. C'est que c'est un jeu qui a une mécanique de gameplay extrêmement riche, mais qui te fait pas chier avec un tuto de 3 heures. Parce que en fait, tu découvres les choses par toi-même et de manière très instinctive. Et d'ailleurs, le roguelike est très bien pour ça. Parce que c'est un genre où tu apprends tes erreurs, en fait. Et Dieu sait que le jeu de cartes, souvent, tu sais, t'as besoin de faire des conneries pour apprendre à faire des bons builds.
Ouais. Et du coup, de ce point de vue-là, tu dirais que la progression, elle est gratifiante dans ce jeu-là ?
Ah, mais complètement, quoi. Tu peux créer des synergies de fou dans ce jeu. Je vais prendre un exemple. Avec le guerrier, qui est le personnage de base, il y a une carte que j'aime beaucoup. En gros, c'est une carte, tu vas la jouer. Elle coûte 0. Elle va faire des dégâts. Et une fois qu'elle aura été jouée, elle va créer une copie d'elle-même qui va aller dans la défausse. Ça veut dire que tu vas te retrouver avec deux fois la même carte. Maintenant, je te laisse imaginer un combo où tu as plusieurs mêmes modèles de cette carte-là et où tu vas avoir des cartes qui vont te permettre d'aller chercher des cartes dans ta défausse ou qui vont te permettre de tirer rapidement des cartes de ton deck. Et où, du coup, tu vas te retrouver avec plein d'attaques gratuites à chaque tour. Et de plus en plus gratuites. Et où les cartes vont se multiplier de plus en plus. Et où tu vas faire un effet de boule de neige. Où tu vas taper de plus en plus, quoi.
D'accord.
Ça, c'est un exemple de deck que je me suis amusé à faire. Mmh. Et croyez-moi, quand je vous dis qu'il y a énormément de possibilités, sachant qu'en plus, comme il y a plusieurs personnages, alors pour le moment, dans la bêta du jeu, il y a deux personnages. Dans le jeu final, il y en aura trois. Je sais pas s'ils ont prévu d'ajouter le troisième avant et s'ils en ont prévu d'ajouter encore plus. Mais déjà, les deux personnages de disponibles, ils sont très différents. Le guerrier de base, c'est le bourrin qui tape, si tu veux. Alors que le deuxième personnage, c'est plus l'espèce d'assassin qui va essayer de faire des dégâts dans le temps, en fait.
Ouais.
Bref. C'est vraiment un jeu qui, du point de vue de sa structure, en plus, en tant que jeu de cartes, est très très bien conçu. Et à chaque fois que j'y joue, je me dis, en fait, mais putain... Ça aurait été tellement bien que Hearthstone ou des trucs comme ça et un mode solo comme ça, parce que pour le coup, c'est un vrai jeu de cartes solo, quoi.
D'accord. Et parce que du coup, il n'y a aucune composante de jeu multijoueur dans le jeu, en fait. Il y a rien, pas de coop, que dalle.
Que dalle.
Ok.
Alors, sauf peut-être un truc dont je ne parlerai pas ici parce que ça spoilerait la fin du jeu.
D'accord.
Mais il y a un truc intriguant à la fin qui me fait dire que est-ce que les développeurs ne préparent pas autre chose ?
D'accord.
Voilà, mais je vous laisserai finir le jeu et écoutez, okay. Vous avez qu'à vaincre la tour.
Ouais.
D'ailleurs, en parlant de vaincre la tour, est-ce que c'est un jeu qui a un background, il raconte quelque chose ou bien c'est juste on va niquer la tour pour niquer la tour, quoi ?
Alors, il y a une ambiance.
Ouais.
En gros, dans la manière dont est présentée la mort, etc., on t'explique pourquoi t'as un personnage qui revient à chaque fois pour vaincre la tour, quoi. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, qu'on soit clair.
Ouais.
Ok. Est-ce que tu dirais que du coup, parce qu'on parle d'un roguelike, les roguelikes en général c'est difficile, est-ce que ce jeu-là du coup est impitoyable ? Est-ce que tu trouves qu'il est bien dosé ? Est-ce que tu trouves que par moments il peut être frustrant ?
C'est extrêmement bien dosé, c'est même mieux dosé que FTL, je trouve.
D'accord.
Après, je suis un bien meilleur joueur de Slay the Spire que je suis un joueur de FTL.
D'accord.
Moi, vous le savez, hein, j'étais fier de terminer le jeu en normal, alors qu'il y a des gars qui terminent en hard, finger in the nose, hein, donc voilà. Ouais. Pour vous dire mon niveau sur FTL. Mais j'ai réussi à le finir quand même en ayant retenté pas mal de fois. Hein. Donc je considère qu'il est relativement bien équilibré et surtout... C'est pas un jeu qui te prend en traître.
Ouais.
Si tu vas te retrouver dans la merde parce que t'as pris une malédiction, c'est parce que t'auras choisi de la prendre à un moment donné en échange de quelque chose. Parce que tu sais, en général, ce qui se passe, c'est que t'arrives dans les événements aléatoires, t'as des boîtes de dialogue et on te met la récompense entre guillemets. Tu vois, on te dit recevez ça, mais recevez telle malédiction. Et quand tu vas dessus, tac, t'as une infobulle qui apparaît et on te dit la malédiction, elle fait ça. Mmh. D'ailleurs, c'est un jeu qui est extrêmement bien conçu dans son interface. Et c'est un jeu d'une manière générale où tu le vois, tu dis c'est un jeu qui est bien fini, quoi.
Donc toi, t'as terminé le jeu. Du coup, on en vient à la question de la rejouabilité, forcément, parce que encore une fois, c'est un roguelike. Est-ce que une fois que tu l'as terminé, t'as envie de tester, bon, déjà avec un autre personnage, mais même avec le même personnage, est-ce que t'as envie d'y retourner en fait?
Bah oui, parce que t'as débloqué de nouvelles cartes. Et quand bien même t'aurais pas débloqué de nouvelles cartes, de toute façon, il y a déjà tellement de reliques et de cartes à disposition que t'auras pas le même build à la prochaine partie. Et quand bien même, par hasard, tu tomberais sur le même build, de toute façon, t'auras pas le même parcours, les mêmes ennemis, les mêmes obstacles, les mêmes choix qui te seront proposés, etc. Donc voilà. De toute façon, c'est un jeu avec une énorme richesse. Mmh. En tout cas, si vous n'êtes pas rebuté par l'aspect esthétique, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui, sans verser dans le pixel art, est quand même assez simple visuellement, ben écoute, c'est un titre qui, non content d'avoir une ambiance assez chouette, et c'est déjà pas mal, peut se targuer d'être le meilleur roguelite auquel j'ai joué depuis un bon moment, ainsi que le meilleur jeu de cartes auquel j'ai joué depuis un bon moment. Et surtout, c'est un jeu... Alors, ça fait un moment que j'y joue. Hein. Slay the Spire, je l'ai acheté en décembre. Et pour tout vous dire, c'est un jeu, je l'ai pris à la base, parce que je cherchais un titre auquel jouer pendant les fêtes, parce qu'il se trouve que quand je pars chez mes parents, moi j'ai pas de Switch, donc j'embarque mon laptop. Et mon laptop, c'est pas une bête de course, hein. Il fait pas tourner des gros jeux. Et je suis tombé dessus, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un jeu chouette à faire pendant les fêtes. Eh ben écoute, ce jeu-là, j'y ai beaucoup joué pendant les fêtes. Donc voilà, c'est vraiment un titre très absorbant, et pour tout vous dire, il est tellement absorbant, il est tellement bien fini surtout, parce que franchement, c'est un des accès anticipés les mieux finis que j'ai pu voir. Et d'ailleurs, tu me dirais, ouais, le jeu en l'état, il est fini, je te dirais, c'est pas déconnant.
D'accord.
Il est tellement bien fini, il est tellement bien foutu, que quand je l'ai acheté en décembre, c'est un jeu, alors certes, il est pas non plus passé inaperçu, mais il faisait pas les scores de vente qu'il est en train de faire actuellement. C'est-à-dire que c'est un jeu qui avait disparu du top des ventes de Steam assez rapidement, et vous savez qu'en général, normalement, en dehors des promos, c'est très très rare qu'un jeu remonte dans le top des ventes de Steam. Et celui-là, non seulement il est remonté par la force du bouche à oreille dans le top des ventes de Steam, mais en plus, en augmentant ses ventes, son score n'a pas baissé. Ce qui, je peux vous le dire, pour regarder très régulièrement les ventes sur Steam, est très très rare, et pour moi, rien que ça, ça dit déjà quelque chose. En tout cas, si vous aimez les roguelites et les jeux de cartes, jetez-y un œil.
D'accord, bah écoute, ça a le mérite d'être clair. Donc on rappelle que c'est disponible sur Steam, accès anticipé, 15,99€.
Voilà.
Voilà.
Bon, écoutez messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Effectivement.
Ciao à tous.
Salut à tous.
Ciao.